10 titres à défendre. Ça ne va pas être simple dans ces conditions. Si on arrivait à atteindre une quarantaine de médailles, ce serait extraordinaire.
Tokyo, c'est parti. 15 jours de jeu. Et pour la ministre des Sports, invitée de la matinale d'Europe 1, un espoir et un objectif, ramener le plus de médailles possible. Les opposants au pass sanitaire continuent d'occuper le terrain. Plusieurs manifestations prévues à Paris et dans les grandes villes de province. Mais pas seulement. La contestation s'exprime aussi dans les villes moyennes. L'exécutif qui observe d'un œil attentif un mouvement hétérogène, le pass sanitaire peut-il agglomérer toutes les colères comme les gilets jaunes avant lui? À Nice, le maire Christian Estrosi fait machine arrière. Plus besoin de pass pour les enfants qui souhaitent fréquenter les centres de loisirs. Le pass examiné par le Sénat après son adoption à l'Assemblée. La loi pourrait être modifiée à la marge, mais la résistance s'organise. Il y a ceux qui ont choisi de boycotter les lieux qu'il exige et ceux qui cherchent déjà à se procurer un faux certificat de vaccination. La marche des fiertés à Budapest, les homosexuels défilent pour défendre leurs droits et engagent le bras de fer avec le gouvernement de Viktor Orban. Le phare de Cordoue en Gironde sur le point d'entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO, décision attendue dans l'après-midi. Et puis invité d'Europe Midi, le psychiatre et psychanalyste Serge Hefez. Le 13 avril dernier, comment les Français, on annonçait, le président Emmanuel Macron annonçait les jours heureux. Comment vont les Français alors que désormais une quatrième vague épidémique est annoncée?
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ils seront encore dans la rue cet après-midi. À vrai dire, certains y sont depuis hier, mais les appels à manifester contre le pass sanitaire se multiplient un peu partout en France depuis plusieurs jours. Des défilés dans près d'une centaine de villes. À Paris, 3 cortèges sont prévus. Le plus important partira à 14h du 14e arrondissement où vous vous trouvez, Océane Théard.
Oui, ici, place du Palais Royal, des camions de gendarmerie sont déjà là. Des manifestants qui arrivent doucement pour un cortège qui partira d'ici 1h30. Des antipasses, des anti-vaccins aussi, qui refusent, comme Mathieu, la politique du gouvernement. Et il est venu de Valence pour le dire.
Pour moi, ce n'est pas un vaccin, c'est un essai clinique à échelle géante. Ça va contre le fait que notre corps est notre temple et que la Constitution nous protégeait de ça. On n'a pas à recevoir un traitement médical forcé.
Des manifestants qui n'en démordent pas, comme ce quadra, Christophe. Déjà son deuxième rassemblement contre le pass sanitaire, qu'il juge même antidémocratique, avec des mots durs.
Le pass sanitaire, il représente pour moi le nazisme un peu. Enfin, je veux dire, c'est comme un Ausweis. On va se dénoncer les uns les autres parce qu'un tel n'a pas son pass sanitaire. On ne pourra pas acheter dans un magasin parce qu'un tel a le pass sanitaire. Et ça, c'est pas vivable.
Alors d'ici le départ de la manifestation à 14h, Christophe et Mathieu devraient être rejoints par quelques milliers de personnes. La semaine dernière, les différentes mobilisations anti-pass sanitaire avaient rassemblé 18 000 manifestants à Paris.
Océane Théard en direct du 14e arrondissement de Paris. Des opposants qui ne décolèrent donc pas et un gouvernement qui observe d'un œil inquiet. Le spectre des gilets jaunes hante à nouveau les couloirs du pouvoir. La rentrée sera chaude, prédit le député MoDem Philippe Latombe, qui observe une concordance des exaspérations. En attendant, certains ont choisi le boycott pur et simple, à moins que ce ne soit le découragement qui éloigne les spectateurs des salles obscures. Les cinémas et les distributeurs appellent l'État à l'aide. La mise en place du pass sanitaire a entraîné un effondrement de la fréquentation. 70% d'entrées en moins mercredi, journée pourtant riche en nouveaux films. Le projet de loi qui est maintenant devant le Sénat, le texte ne devrait pas être modifié ou alors à la marge. On va vous accompagner sur le pass, mais bon sang, il faut des doses, s'écrit le patron des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau. Convaincu ou résigné, les Français se bousculent dans les centres de vaccination et les centres de dépistage. Plus d'un sur deux a reçu au moins une injection. Il y a aussi les irréductibles, les antivax bien sûr, et les autres, ceux qui préfèrent attendre et qui s'en remettent au système D, pas toujours légal. À Grenoble, une employée d'un vaccinodrome vient d'être mise en examen pour trafic d'attestation, Marion Dubreuil.
Oui, car cette jeune femme occupe un poste stratégique dans le plus grand centre de vaccination de Grenoble, 4700 injections par jour. Elle enregistre les patients à l'entrée et elle gère l'extraction de l'attestation de vaccination à la sortie. Son comportement avait attiré l'attention d'un superviseur qui avait repéré plusieurs certificats dans son sac. Un autre témoin avait vu sur son téléphone portable des photos de cartes vitales. Les enquêteurs ont retrouvé une liste manuscrite de numéros de sécurité sociale et des noms barrés. Après avoir nié les faits pendant ses 48 heures de garde à vue, elle a finalement avoué face au juge d'instruction. Elle a reconnu avoir réalisé une douzaine de fausses attestations et s'être fait parfois rémunérer. L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices ainsi que les clients de ce trafic.
Marion Dubreuil à Nice, le maire Christian Estrosi décide de revenir sur ses pas. Non, les enfants n'auront pas besoin d'un pass sanitaire pour fréquenter les centres de loisirs de la ville.
Rendez-vous à Tokyo sur Europe 1.
Voilà, on file à Tokyo avec vous, Julien Froment, parce que ça y est, on a une première médaille française.
Oui, enfin le compteur débloqué grâce au judoka Luca Mekedze. Le français a battu le coréen Won Jin Kim pour la troisième place, la petite finale. C'est en moins de 60 kilos, 0-0 à la fin du temps réglementaire. Et bien dans le Golden Score, il l'a emporté aux pénalités. On rappelle, il s'était incliné en demi-finale, là aussi dans le Golden Score, après 9 minutes intenses de combat face au Taïwanais Yang. Mais il a su retrouver un second souffle, de l'énergie pour décrocher donc cette médaille de bronze. Né en Géorgie, à Tbilissi, arrivé à 14 ans pour fuir la guerre d'Ossétie, Mekedze lance enfin les JO pour la délégation française qui a pour objectif, on le rappelle, de remporter au moins 40 médailles.
Et ben voilà, il ne reste plus que 39. Merci Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Et puis je vous rappelle bien sûr, à 13h, le nouveau rendez-vous d'Europe 1 pendant cette quinzaine, le Club de Tokyo, présenté par Simon Rubin.
Europe Midi, Christophe Lamarre.
À Budapest, on s'apprête à défiler pour défendre les droits des homosexuels. La marche des fiertés doit s'élancer à 14h30. Et vous serez dans la manifestation. Fabienne Keller, bonjour.
Bonjour, oui, je serai dans la manifestation avec des collègues du Parlement européen pour soutenir les LGBTIQ+, et puis pour leur montrer aussi notre soutien plus global à l'état de droit qui n'est pas du tout respecté en Hongrie.
Alors vous êtes allé plus vite que moi parce que je n'ai pas eu le temps de vous présenter, ancienne maire de Strasbourg et députée européenne, ce qui explique aussi votre présence dans cette manifestation. Le Premier ministre Viktor Orban annonce vouloir soumettre sa loi sur les représentations homosexuelles au référendum. Est-ce que ce n'est un bras de fer qui s'engage entre l'Europe de l'Ouest et finalement les ex-pays du bloc de l'Est qui ont rejoint l'Union ?
En fait, pour l'instant, c'est surtout un bras de fer avec la Hongrie elle-même, oui, qui ne respecte plus la Charte européenne des droits fondamentaux, qui garantit que nul n'est discriminé en fonction de sa race, de sa religion, de sa couleur de peau et de son orientation sexuelle. Donc c'est vraiment un pilier de l'Union européenne, cette Convention des droits de l'homme, qui n'est pas respectée ici. Donc en effet, cette loi qui confond en fait l'homosexualité et la pédophilie est extrêmement critiquée par les ONG, par la société civile. Il faut voir que monsieur Orban est extrêmement habile, puisque vous savez qu'il fait partie du scandale Pegasus et qu'il a annoncé ce référendum sur sa loi au moment où ce scandale est rendu public. Donc il divertit en fait l'opinion publique du cœur du sujet, et les questions de ce référendum sont incroyables. Nous avons pu en prendre connaissance précisément. En fait, elles parlent essentiellement de la question de changement de sexe, alors qu'on sait très bien que cela concerne une minorité de personnes et que la manière dont sont posées les questions est telle que pratiquement la réponse est totalement guidée. D'ailleurs, les personnes très ouvertes qui défendent le droit à la différence ne répondent même pas à ce genre de questionnaire, ce qui va donner vraisemblablement un résultat incroyable.
Rapidement, Fabienne Keller, vous pensez que le Conseil européen a les moyens de faire pression sur la Hongrie ? Après tout, elle pourrait dire, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Je sais ce que vous allez me dire, mais elle profite largement des subsides de l'Union européenne.
Oui, vous avez raison. Le pays, la Hongrie, profite des subsides. Et les Hongrois, dans les sondages qui sont faits régulièrement, sont très favorables à l'Europe. Donc on est dans une forme de paradoxe. Et d'ailleurs, M. Orban ne s'y trompe pas. Dans son système de propagande, il cible Bruxelles, il cible la technocratie. Et vous avez raison, il a besoin de l'argent, mais il sait très bien qu'il ne peut pas non plus aller contre son peuple, qui aime beaucoup cette Europe intégrée depuis presque 20 ans maintenant. Mais il joue très habilement d'un certain nombre de cibles contre lesquelles il met toute son énergie. Dans le passé, ça a été les migrants. C'est Bruxelles technocratie, monstre administratif. Et désormais, il cible les LGBTIQ+, mais comme une cible, si vous voulez, et qu'il manipule. C'est terrifiant et nous devons dénoncer ces manipulations qui vont à l'encontre des principes fondamentaux et que nous avons tous acceptés en rejoignant l'Union européenne.
Merci Fabienne Keller. Je rappelle que vous êtes eurodéputée et ancienne maire de Strasbourg. Il faut toujours penser à ceux qui sont encore dans les bouchons lorsque l'on annonce que ça va mieux sur les routes. La décrue s'amorce lentement, très lentement, j'en conviens, moins de 900 km de bouchons cumulés, mais le pic, semble-t-il, a été atteint un peu avant midi. Et si vous êtes encore au volant, eh bien, il y a quelques conseils. On voit ça avec Aude Leroy.
Oui, et surtout, ce qui est intéressant, outre l'augmentation de la sécurité en roulant mieux et moins vite, eh bien, ce sont les économies que vous pouvez réaliser en pratiquant l'éco-conduite. Vous savez, c'est par exemple ne pas freiner ou accélérer brutalement, c'est de vérifier la pression des pneus, car sous-gonflés, eh bien, ils augmentent de 3 à 6% la consommation de carburant. Ils s'usent aussi plus vite et à terme, vous mettent en danger. En été, attention à la climatisation, plus elle est basse, plus le moteur fonctionne. Alors, le mieux, c'est de la régler 7 degrés en dessous de la température extérieure. D'ailleurs, lors de la pause, coupez le moteur. La fraîcheur de l'habitacle reviendra très rapidement quand vous repartirez. En adoptant cette façon de conduire, vous pouvez économiser jusqu'à 450 euros par an sur le budget carburant. À cela, ajoutez les bienfaits pour la planète, moins de pollution, moins de gaz à effet de serre. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait convertir votre voiture essence au super éthanol E85, tout ça grâce à un boîtier de conversion. Alors oui, ça vous coûtera 1000 euros, mais vous l'amortirez en moins de 2 ans.
Aude Leroy, attention en voiture, attention au Covid, on va passer nos vacances à faire attention, on est épuisé rien que d'y penser. Et puis il y a ceux qui tentent de faire comme si de rien n'était et s'adaptent, et c'est toujours plus facile à la mer ou pas loin d'elle. Reportage à l'île de Ré sur le marché du bois plage. Laura Taouchanoff.
On est sur le plus gros marché de l'île et il est couvert, plutôt pratique vu le temps un peu maussade ce matin. Alors elle a déjà une baguette dans son panier, comme beaucoup d'autres, Christine vient faire ses courses de bonne heure.
10,50 s'il vous plaît.
Pour éviter les touristes, les queues et surtout aussi le fléau qui est là en ce moment et qui continue à s'instaurer, voilà.
Le Covid.
Le Covid, oui.
Alors c'est quoi le menu ce midi?
Alors aujourd'hui, on a des langoustines fraîches et des petites tomates.
Qui cuisine pendant que vous êtes en vacances comme ça?
Ah ben c'est moi.
Vous faites pas la vaisselle quand même?
J'ai beaucoup changé à la vaisselle.
Ici, on vit simplement, on prend le temps de choisir des salicornes locales, des huîtres. Ce qui peut être une corvée au quotidien devient un plaisir en vacances. C'est quoi votre prénom?
Marguerite.
Et vous?
Pierrot.
Ok, Marguerite et Pierrot, qui cuisinent en ce moment?
Ça dépend des jours. Il y a des jours, c'est moi.
Hier soir, c'est monsieur qui a fait la cuisine. Et là, on fait des courses tous les deux, en venant de bonne heure, on est tranquille.
Et qu'est-ce qu'il y a dans votre panier?
Des grillades, bien sûr. Des saucisses, des merguez, évidemment des pommes de terre, de l'île de Ré, bien sûr.
Et un petit pinot des Charentes avec ça?
Indispensable.
Je peux venir manger avec vous?
Ah oui.
Si on veut.
10 enfants arrivent ce soir, alors.
Faut tout préparer.
Oui.
Le samedi matin, c'est sûrement le meilleur moment pour profiter du calme de ce marché avant l'arrivée en masse des prochains vacanciers cet après-midi.
Un reportage Laura Taouchanoff à l'île de Ré. Pareil qu'il fait pas très beau à l'île de Ré. Bah tiens, on va voir comment ça se passe là-bas et sur le reste de la France. La météo
l'été,
tout de suite.
L'été, c'est avec ou sans soleil. Mais la rentrée, c'est surtout l'esprit léger grâce aux solutions de garde d'enfants de la Compagnie des Familles. Tout de suite, la météo.
Comment ça, Laurent Cabrol? Il pleut ou il va pleuvoir, c'est ça?
Oui Christophe, si nous parlons beaucoup de pluie hein, depuis ce matin, effectivement le temps a changé complètement et demain il en sera ainsi, à savoir eh bien, de la pluie et encore de la pluie sous des formes diverses. C'est-à-dire que les régions les plus importantes ou les plus marquées par les intempéries seront le Nord, la Picardie, Champagne, Ardennes, Lorraine, région parisienne, Normandie, Centre et Bourgogne. Des régions un petit peu plus épargnées mais enfin n'arriveront pas, ce sont des averses en Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Limousin. Dans le sud-ouest, on peut espérer un ciel presque sec. Et puis, près de la Méditerranée, un voile. Bref, ça n'est pas folichon du tout. Et les températures restent fraîches. Demain, dimanche, 21 degrés à Caen, 22 à La Rochelle, 23 seulement à Paris et Lille, 24 à Rennes, 25 degrés à Bordeaux, 26 à Strasbourg, 29 à Lyon. Et puis, des températures plus chaudes, Manosque, Marseille, Ajaccio, Avignon, entre 33 et 34 degrés.
Quel programme, merci Laurent Cabrol. Dans un instant, le psychiatre et psychanalyste Serge Effez. On va tenter de voir comment vont les Français alors qu'une quatrième vague est annoncée. À tout de suite.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Christophe Lamarre.
Bonjour Serge Effez.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, psychanalyste, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Il y a quelques mois de cela, vous nous alertiez sur une troisième vague qui pourrait être psychiatrique. On n'en parle pas ou peu, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas ou pas du tout. Comment vont les Français depuis que vous avez lancé cette alerte, Serge Effez?
Bah écoutez, c'est très mitigé, c'est très varié, ils vont pas tous de la même façon, mais il y a quand même beaucoup de fébrilité, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse à l'heure actuelle, qui se mélange avec le fait que c'est l'été, qu'on n'a pas envie d'y penser, qu'on a envie de profiter des vacances, qu'on a envie de se dire qu'on est sorti de cette crise sanitaire, alors que tout nous indique que malheureusement on n'en est pas sorti, pas tout à fait, qu'on ne sait pas Donc cette incertitude, elle prolonge finalement ce traumatisme qu'on a tous vécu depuis un an, depuis plus d'un an. Et vous savez, on sort pas du traumatisme en deux coups de cuir à peau. Donc il faut réparer tout ce qui a été blessé. Et en ce moment, c'est pas le meilleur moment parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'incertitudes.
Est-ce que vous craignez une division, une opposition entre Français ? Il y a des manifestations contre le pass sanitaire, d'autres manifestent contre le vaccin. Mais la question qui nous préoccupe là aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si on est pour ou contre le vaccin, c'est cette histoire de pass sanitaire qui vient d'être votée par l'Assemblée. Le texte va passer maintenant devant le Sénat, mais on sent que là, il y a un point de crispation. Est-ce que ce n'est pas de nature à diviser davantage et pourquoi pas à aggraver le traumatisme dont vous parlez ?
Mais absolument, parce que le plus important, et ce que nous a appris cette épidémie, c'est que pour réagir, il faut que le tissu social tienne le coup. Il faut qu'on se sente reliés les uns aux autres. Il faut qu'on adhère ensemble à ce qui nous est proposé. On l'a vu au premier confinement, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. Ça a été une adhésion massive à des règles qui étaient pourtant extrêmement difficiles et coercitives. C'était la première fois qu'on était obligé de rester chez nous et de vivre cette vie confinée. Et pourtant, on s'y est affilié parce qu'on se sentait tous un peu pris dans la même galère. Rien n'est pire que de sentir ces divisions qui mettent les gens les uns contre les autres. On l'a vu un peu plus au deuxième confinement et là on le voit magistralement avec le pass sanitaire. Il y en a qui passent, il y en a qui passent pas. Il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre. Et là, ça crée effectivement une opposition qui est extrêmement sensible chez les gens parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. On sait que les vaccins, ça a sauvé de tout un tas de maladies contagieuses dans notre histoire. On est le pays de Pasteur, on est le pays du vaccin. Donc on ne comprend pas l'opposition. Ceux qui s'y opposent ne comprennent pas qu'on ne voit pas les choses à leur mesure. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'hostilité qui naît dans cette période.
Le député européen François-Xavier Bellamy, et philosophe aussi, a publié une tribune remarquée dans Le Figaro à propos de ce pass sanitaire, une remise en cause profonde et inédite de notre modèle de société, écrit-il. Est-ce que ce pass sanitaire ne risque pas de déchirer le contrat social cher à un certain Jean-Jacques Rousseau ?
Ben voilà, c'est ce qu'il est en train de faire, effectivement. Et c'est malheureux parce que, au fond, personnellement, je trouve qu'il n'en vaut pas la peine. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des mesures qui sont raisonnables à prendre compte tenu de la gravité des choses et surtout pour éviter d'avoir encore à se reconfiner une quatrième fois à la rentrée. Mais malheureusement, il a été mis en place trop vite, trop rapidement, avec trop peu de pédagogie. On a vu que les mesures coercitives et pas du tout l'effet extrêmement positif et libérateur que ça pouvait avoir. Et donc, effectivement, ça déchire le tissu social.
Il y a des gens qui sont pourtant vaccinés. J'ignore si c'est la majorité, je ne me permettrai pas de le dire, mais qui ont dit, à l'issue du discours d'Emmanuel Macron annonçant les mesures pour tenter de contrer cette quatrième vague, qui ont dit... Il m'a braqué. Certains étaient prêts à se faire vacciner et disent « Aujourd'hui, je ne me ferai pas vacciner ». Est-ce que là aussi, de la part du pouvoir, il n'y a pas eu une maladresse dans la façon de s'adresser aux Français, à l'ensemble des Français ?
Oui, tout à fait. Mais je trouve qu'il y a, de façon générale, dans la communication autour de la maladie, et ce, depuis le début, une maladresse qui est de prendre les Français pour des enfants, c'est-à-dire qu'on s'adresse à eux comme un instituteur s'adresse à sa classe ou comme des parents s'adressent aux enfants en leur demandant d'être raisonnables, d'être gentils, de s'affilier à un certain nombre de choses et en ne les prenant pas comme des partenaires par rapport à ces décisions. Alors, je sais bien qu'il faut aller vite et que c'est difficile de prendre des décisions collectives au moment où on va vite, mais on peut peut-être préparer les choses un petit peu plus en amont, que les gens aient le sentiment de participer à des décisions qui sont quand même importantes, effectivement, la question du vaccin, du pass sanitaire, comme la question du confinement. Voilà, c'est des mesures qui nous concernent tous dans notre vie quotidienne, dans notre vie privée, dans nos convictions. Et il y a un manque d'adhésion de beaucoup de gens parce qu'ils ont le sentiment que ça leur est imposé d'en haut sans qu'on leur explique très clairement les enjeux.
Vous expliquez à l'instant qu'il ne faut pas s'adresser aux adultes comme à des enfants. Le risque, quel est-il ? Qu'à force, pardon, de s'adresser aux adultes comme à des enfants, ils se comportent comme tels ?
Ben, c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils se rebellent comme un enfant et qu'effectivement, on en vient à tout refuser, tout repousser, sans pouvoir faire la part des choses entre ce qui pourrait être positif ou négatif. Et encore une fois, on sait bien que même avec des enfants, les faire participer à une décision, c'est toujours plus payant que de leur imposer quelque chose.
J'en viens à, évidemment, votre spécialité. Je rappelle que vous êtes psychiatre et psychanalyste et que vous vous occupez notamment des enfants et des adolescents. Comment vont-ils, Serge Effez ?
Écoutez, ils commencent à aller mieux, mais ils ont quand même beaucoup été ébranlés par ce qui s'est passé. Comme vous le savez, on a tous vu dans nos services, dans nos consultations à l'hôpital, un accroissement considérable des enfants qui allaient mal, un accroissement de l'anxiété, de la dépression, même chez les petits-enfants, des tentatives de suicide, des hospitalisations, sans compter les déchirements familiaux, les conflits familiaux, la violence familiale qui a beaucoup augmenté. Donc là, encore une fois, c'est un peu la peau. C'est un peu la pause des vacances, donc il y a ceux qui vont en profiter au mieux, mais il ne faudrait pas qu'on oublie tous ceux qui ont quand même été largement ébranlés et traumatisés par cette vague épidémique et par tout ce qu'on a vécu depuis plus d'un an, et qu'on fasse comme si finalement rien ne s'était passé, parce qu'il y a des affections qui continuent parfois à bas bruit et qui vont sans doute ressortir à la rentrée et dans les premiers mois de la rentrée.
Est-ce qu'il y a des indicateurs qui démontrent ou démontreraient une aggravation de l'état de santé psychique, sinon de la nation, en tout cas de vos patients ?
Il y en a eu beaucoup, avant l'été et avant que le vaccin ne laisse entrevoir quand même une sortie du tunnel. Là, tous les indicateurs étaient au rouge, les indicateurs d'hospitalisation, les indicateurs de consommation et de prescription de psychotropes chez des enfants et des adolescents, les indicateurs de tentatives de suicide. Et ça, c'est international, c'est-à-dire que toutes les données de tous les pays touchés par l'épidémie montrent cette vague psychiatrique qui a particulièrement touché les jeunes.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, qualifie cette vague Delta d'épidémie de jeunes. Est-ce que ce n'est pas un peu maladroit de sa part ?
C'est-à-dire, c'est maladroit dans la communication, au sens où malheureusement, ceux qui ont payé le plus lourd tribut par rapport à leur santé et par rapport à leurs risques vitaux, c'est quand même les personnes âgées, bien évidemment. Mais sur le plan de l'insertion sociale, sur le plan de l'avenir et sur le plan psychique, effectivement, les jeunes ont été particulièrement touchés parce que ça leur arrive à un âge où on construit son avenir, ça leur arrive à un âge où on met de l'espoir dans ses études, dans la filière professionnelle qu'on va pouvoir prendre. Et là, beaucoup de choses ont été quand même non seulement bousculées, mais même détruites chez ces jeunes-là.
Que nous dit Serge Effez cette épidémie, sinon de l'époque, mais de nous tous avons-nous basculé, j'y mets toutes les formes de précaution possibles, mais avons-nous basculé ou sommes-nous en train de basculer dans une forme d'hystérie collective ? Et si oui, comment on en sort ?
Il faudrait se méfier quand même de la terminologie d'hystérie collective parce qu'encore une fois, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Mais en tout cas, il faut éviter autant que faire se peut, moi, ce que j'appellerais plutôt la paranoïa collective que l'hystérie collective. C'est-à-dire la paranoïa collective, c'est ce qui est le plus dangereux, c'est ce qui va le plus vite quand une population se sent en danger ou se sent menacée, où les théories du complot s'infiltrent de plus en plus chez les gens et on a vu que ça pouvait conduire même dans certains pays à des génocides. Donc il faut bien voir que ce qu'il s'agit d'éviter, et ça c'est la tâche du gouvernement et la communication du gouvernement, c'est d'éviter cette espèce de vague de peur et d'angoisse et d'anxiété qui font que tout le monde se détermine contre quelque chose et non pas pour construire ensemble.
Emmanuel Macron, au début de l'épidémie ou de la pandémie, disait « nous irons vers les jours heureux ». On a quand même le sentiment aujourd'hui qu'on nous en sommes encore loin.
Ben oui, alors d'autant que en plus de cette épidémie et effectivement le vaccin, ça, il faut quand même se rappeler des grandes maladies de la variole, de la tuberculose, de toutes ces maladies qui ont été éradiquées, de la diphtérie, etc., qui ont été éradiquées définitivement avec un vaccin. C'est des maladies dont on n'entend plus parler à l'heure actuelle. Donc on peut quand même avoir ça en tête pour se dire que raisonnablement, on peut espérer sortir de cette épidémie. Mais au moment où on commence peut-être à mettre la tête hors de l'eau et à espérer comme cela, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on commence à mesurer de plus en plus les effets du dérèglement climatique. On voit des villes entières à nos frontières, en Belgique, en Allemagne, qui sont englouties par les eaux et prises dans des courants de boue. On se dit ça peut arriver chez nous dans 15 jours ou dans un mois. Et donc, on passe un petit peu d'une angoisse à une autre.
Et ça va être quand même compliqué de garder justement la tête froide et de savoir raison garder. Merci Serge Effez. Je rappelle que vous êtes psychiatre, psychanalyste et spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Merci à vous Serge Effez.
Merci.